comme chaque mois, nous allons donc parler de sexe dans On en parle. Et qui mieux qu'une sexologue pour en parler ? Notre sexologue, Patricia Hannet, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, sujet délicat, les relations extra-conjugales. Comment un couple peut-il gérer, faire face à ces situations, éventuellement les surmonter ? Mais d'abord, on va être assez précis sur les termes, Patricia. On parle bien de relations extra-conjugales et non d'infidélité et de tromperie. Pourquoi les mots sont si importants ?
Oui, c'est très important parce que quand vous dites infidélité, tromperie, trahison, il y a une notion de morale là derrière. Hein. On se réfère à une morale chrétienne, à une morale religieuse, à une morale personnelle. Or, nous, dans nos consultations, c'est des problèmes qu'on voit assez fréquemment, hein, les problèmes des relations extra-conjugales. Donc, pour nous, on ne se pose jamais en qualité de moralisateur. Pour nous, ce n'est pas bien ou c'est pas bien ou mal.
Vous n'êtes pas là pour juger.
Comme ça. On n'est pas là pour juger. Ça, c'est très important pour les auditeurs qu'on prenne, que même pour eux-mêmes, ils parlent vraiment de relations extra-conjugales et pas d'infidélité ou de tromperie. On a chacun une définition différente du terme de fidélité. Hein, parce que pour certains, la fidélité, ça veut dire exclusivité sexuelle. Pour d'autres, la fidélité, c'est l'exclusivité plutôt amoureuse.
Affective.
Pour d'autres, c'est la fidélité, c'est être vis-à-vis de soi-même, de faire du mieux qu'on peut dans le couple. Ça, c'est déjà être fidèle à soi, être fidèle à l'autre. Donc, on voit que c'est pas un terme très bien. Tandis que relation extra-conjugale, c'est un terme objectif qui dit que voilà, dans un couple, l'un des deux a une relation à l'extérieur de ce couple, qu'il soit sexuelle ou amoureuse.
Alors justement, comment ces relations extra-conjugales apparaissent-elles au sein du couple ? Comment en fait sont-elles découvertes ou mises au jour par les conjoints généralement ?
Alors en général, le problème numéro un qu'on a aujourd'hui, c'est les nouveaux moyens de télécommunication, les SMS, les mails et tout ça. Donc ça c'est le premier élément qui va indiquer qu'il y a une relation extra-conjugale.
Tout est enregistré, donc c'est facile évidemment d'aller consulter les mails dans l'appareil de son conjoint.
Voilà, et quand on a une relation extra-conjugale, au début on est très prudent, et puis ensuite on relâche son attention puisqu'il se passe rien, donc on va toujours un peu plus loin et on laisse les SMS, on laisse le téléphone traîner. Et puis des fois c'est que on se fait découvrir parce qu'on a envie que l'autre nous quitte, donc ça c'est dans un cas d'un couple qui va très mal, donc il va s'arranger pour se faire découvrir, comme ça ben l'autre va le quitter. L'autre option, c'est que peut-être il y a une attitude distante du conjoint. Donc là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ou bien il y a des
mensonges. Vous voulez dire que l'attitude distante provoquerait la relation ?
Non, mais qu'on voit que l'autre devient distant. Donc on peut se douter qu'il y a une relation extra-conjugale, par exemple. C'est là qu'on découvre ou qu'on enquête. Et puis les mensonges qui peuvent être peu cohérents. Ou bien se faire surprendre par quelqu'un qu'on connaît ou une amie qui nous croise dans la rue. Enfin, quand on a une relation extra-conjugale, il est très important de bien se cacher. Ça va paraître peut-être à nos auditeurs un peu choquant ce que je dis, mais c'est très important parce que très souvent on ne supporte pas les conséquences de nos actes. Si on a une relation extra-conjugale, il faut être prêt à assumer les conséquences.
Mais alors justement, pourquoi ne pas le dire dans ce cas-là s'il faut être prêt à l'assumer?
Oui, alors Élise disait, si tu ne supportes pas le sentiment de culpabilité entraîné par un acte, alors ne le fais pas. Parce que très souvent, quand on se sent coupable, on va se décharger, on va décharger sa conscience en avouant ce qu'on est en train de faire. Or, ce que je sais dans ma pratique, ce qu'on voit, nous les sexologues ou les thérapeutes de couple, c'est qu'on inflige à l'autre une blessure qui est très profonde et qui est très difficile à guérir. On a meilleur temps de rien dire. Parce que si on veut juste dire à l'autre, bah écoute, j'ai une maîtresse ou j'ai un amant, pour le blesser, ça va pas. Ni pour décharger sa conscience. Parce que après, c'est très difficile à rattraper dans un couple. Donc c'est pour ça qu'on conseille plutôt de ne pas dire la vérité. Il n'y a pas toutes les vérités sont bonnes à dire. Mais je sais que ça peut être mal entendu, hein, parce que c'est difficile à accepter, mais ça vaut la peine d'y réfléchir par rapport à ça. Je pense
c'est ce que vous conseillez en fait à vos patients. Vous conseillez de taire ces relations.
Oui, et de faire en sorte que soit ça s'arrête, si c'est ce que la personne veut, soit que ce soit fait de façon très respectueuse de l'autre, du rapport de couple. Parce qu'on peut se poser la question aussi de savoir est-ce que ça vaut la peine de tout casser, de casser une famille pour juste une incartade ou une histoire de sexe ou une histoire qui a traversé notre vie.
Et qui ne serait pas forcément sérieuse
et
durable.
Voilà, exactement, oui.
Est-ce qu'il y a différentes formes ou degrés de relations extra-conjugales, Patricia ?
Oui, alors il y a les aventures juste qui sont sexuelles, où on a une amante ou une maîtresse juste pour le sexe. Il y a des relations accidentelles, donc on a un peu bu à une soirée, on est seul, on s'amuse, et puis on fait l'amour avec une autre personne. Il y a les relations de double vie. Là, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on va avoir une double vie avec deux familles, par exemple. Ça concerne plutôt les hommes.
Ça peut aller très loin.
Ça peut aller très loin, un homme qui a deux familles. C'est plus rare pour les femmes, bien entendu, parce que quand elle a des enfants, ben voilà, bah c'est difficile d'avoir deux familles pour une femme. Mais elle peut avoir... moi, j'ai une patiente, par exemple, qui a un amant depuis 25 ans, qui est toujours le même, et ça va très bien. Elle vit à trois, quelque part.
Et quelles sont les causes de ces conduites? Est-ce que c'est forcément le signe que le couple originel va mal?
Non. Alors, justement, ça, c'est quelque chose d'important à savoir aussi. Ça ne veut pas dire que le couple va mal ou qu'il y a une mauvaise entente. Alors, certaines fois, c'est parce qu'il y a une très mauvaise entente dans le couple. Quelques fois, parce qu'il y a une mauvaise communication, donc on ne s'entend plus, il y a des malentendus et des silences qui font que on finit par plus s'intéresser l'un à l'autre. Ça peut être aussi quelquefois un manque de sexualité chez l'un ou l'autre. Hein. Souvent chez une femme qui n'a pas du tout envie de faire l'amour, l'homme va peut-être chercher ailleurs des aventures sexuelles. Ça peut être aussi des problèmes de confiance en soi qu'on perd parce que ça va pas au travail et que tout d'un coup on se sent plus un homme, on se sent plus une femme, puis qu'on a besoin de se rassurer, de séduire d'autres personnes, d'être intéressant aux yeux de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est pas parce que le couple va pas, mais c'est parce que personnellement on a un problème de confiance. Et il y a des couples qui s'entendent très bien et qui ont des maîtresses et des amants parce que ben voilà, ça les éclate, ils se font du bien, et puis voilà, ça veut pas dire que le couple va mal.
Alors justement, quelle attitude avoir face à la découverte d'une relation extra-conjugale de la part de son partenaire?
Alors je pense que dans tous les couples, qu'il y ait ou pas de relations extra-conjugales, d'abord la première chose importante, c'est de parler de la fidélité. Qu'est-ce que c'est pour moi? Quelles sont mes valeurs là autour? Et on voit que ça évolue dans un couple. Un couple très jeune va vous dire oh, s'il me trompe, je le largue ou je le tue, ou voilà. Chez un couple un peu plus âgé, c'est déjà très nuancé en disant bon, peut-être que je pourrais pardonner si c'est une incartade. Enfin,
on est mieux armé quand on est un couple.
Je pense qu'on est un peu mieux armé. Oui, parce que l'expérience fait qu'on est un peu plus sage normalement. On est moins emporté comme ça. Mais je pense que c'est important d'en discuter régulièrement dans le couple dès le départ. Disons où est-ce qu'on en est par rapport aux valeurs de fidélité? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Et même en parler peut-être même carrément quand on se met en ménage, quand on se met en couple, est-ce qu'il ne faudrait pas justement poser la question d'emblée?
Oui, quand je donne des cours aux jeunes couples, je leur dis d'en parler. Oui, c'est très important de savoir parce que puis après ben d'en reparler parce que des fois ça change dans l'histoire du couple. Et puis il y a aussi des fois un piège qui se passe souvent que je vois en cabinet, c'est que l'un des deux partenaires va donner l'autorisation par exemple de dire écoute, j'ai l'impression que je peux pas te donner assez de sexualité donc va le chercher ailleurs. Oui. Puis en fait des fois c'est pas tout à fait sincère. On dit ça parce qu'on veut être gentil, mais on n'a pas envie que ça se passe dans la réalité. Donc même dans ces cas-là, ne dites pas que vous avez des relations extra-conjugales. Même si votre partenaire vous l'autorise quelque part. Parce que des fois, ça reste blessant, oui, exactement. Et c'est assez mystérieux parce qu'on peut s'imaginer soi facilement dans les bras de quelqu'un d'autre, mais imaginer la personne qu'on aime dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est insupportable. Ça, c'est un mystère que j'ai pas résolu, mais c'est souvent comme ça. Si on se pose la question, on arrive à cette réponse-là.
Oui, c'est difficile d'arriver à une réciproque, finalement, dans ce domaine-là.
Exact, c'est très difficile, oui, vraiment. Oui.
Vous-même, Patricia Ney, dans votre pratique, qu'est-ce que vous observez? Les relations extra-conjugales, elles sont plutôt le prélude à une séparation, ou bien vous arrivez plus ou moins à recoller les morceaux, enfin je pense qu'on peut dire recoller les morceaux, mais en tout cas faire en sorte que le couple tienne malgré tout.
Alors effectivement, je pense qu'il y a toutes les situations possibles. En général, s'ils viennent en thérapie et qu'ils parlent de ça, on arrive à recoller les morceaux, en tout cas à repartir à zéro, et puis à se dire ok, on se rechoisit et puis on est ensemble. Un des pièges que je rencontre souvent, c'est souvent les femmes qui sont très revendicatrices, c'est-à-dire qu'elles vont vouloir encore à leur partenaire, par exemple, quand il a eu une relation extra-conjugale. Donc à chaque dispute, elles vont ressortir ça. Et ça, ça blesse à chaque fois le couple, et là, c'est plus difficile de s'en remettre. Donc si à un moment donné, on choisit de passer outre la relation extra-conjugale de l'un ou l'autre, on doit s'y tenir, et ça, c'est super important, par respect pour l'autre.
Il y a passé une sorte de pacte de non-agression.
Exactement, ça ne sert à rien de revenir chaque fois dessus, parce que c'est chaque fois des blessures qui reviennent et qui se rouvrent et qui sont difficiles à gérer.
Donc pour résumer, ne pas en parler.
ne pas en parler.
Et puis, si possible, parler, en tout cas, thématiser, disons, la fidélité dans les discussions entre les conjoints.
Voilà, et peut-être reparler, ça donne l'occasion de reparler en couple du sentiment amoureux, de la sexualité, tout ça.
Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre point de vue, Patricia Hannet, sexologue à Orbe sur les relations extra-conjugales, chronique que vous pouvez bien sûr retrouver en tout temps sur notre site. Belle journée, Patricia.
Au revoir, à vous
aussi. Et on se rend sur la route.